teeth. Starting beef is how he spells relief. Acting like he don't care, but all I gotta do is beep him 911 and he'll be there. Right by my side with his roughneck tactics, roughneck attitude, the roughneck bastard.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h à Washington, midi en temps universel.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous.
On va revenir à la une de votre journal sur le discours la nuit dernière de Donald Trump sur l'état de l'Union.
Presque 2 heures d'allocution, il a dépassé le record du démocrate Bill Clinton en 2000. Il a vanté Donald Trump sa politique économique, parlé d'immigration ou encore du dossier du nucléaire iranien, histoire de gagner des voix avant les élections dans 8 mois.
Réaction internationale après ce discours, l'Iran accuse Donald Trump de mentir.
Téhéran rejette les dernières accusations de Donald Trump. Tout ce qu'il avance au sujet du programme nucléaire iranien, des missiles balistiques et du nombre de victimes lors des troubles de janvier n'est rien d'autre que la répétition de gros mensonges, indique l'Iran.
Dans votre journal également, un reportage dans une colonie israélienne construite illégalement sur des terres palestiniennes.
Cette colonie s'appelle Omesh. Elle avait été, il y a 20 ans, en même temps que Gaza, évacuée, mais illégalement, elle se colonise à nouveau, ce qui constitue même une annexion. L'armée israélienne est présente pour protéger les colons.
Au Sri Lanka, du nouveau dans l'enquête sur les attentats très meurtriers qui avaient lieu à Pâques en 2019.
Avec une arrestation, celle d'un ancien chef des renseignements, accusé d'être impliqué dans la pire attaque contre des civils de l'histoire du pays asiatique, causant 279 morts, arrêtés pour complot et complicité dans ces attentats.
Et puis en France, l'Assemblée nationale devrait adopter dans la journée la création d'un droit à une aide active à mourir.
Nous verrons que la route parlementaire de ce texte progresse, mais en réalité, les nouveaux débats ont tendu l'ambiance, un chemin plus compliqué que prévu.
RFI Midi.
Et pour commencer, retour donc sur le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump.
Oui, il a livré cette nuit devant le Congrès le traditionnel discours annuel avec 1h47 d'allocution. Il a vraiment dépassé le record du démocrate Bill Clinton en 2000. À un peu plus de 8 mois des élections de mi-mandat où son parti est donné battu dans les sondages, il s'agissait pour lui d'essayer de renverser la vapeur. François-Damien Bourgerie.
En 1h47 de discours, Donald Trump a parlé immigration, lutte contre la criminalité, d'un pays prétendument moribond après 4 années Biden et aujourd'hui dynamique comme jamais. Il a été aussi question des négociations sur le nucléaire iranien. Pas un mot, en revanche, sur le scandale Epstein que les millions de documents révélés par le ministère de la Justice ne sont pas parvenus à éteindre, bien au contraire. Selon Antoine Yoshinaka, professeur de sciences politiques à l'Université d'État de New York, Donald Trump tente alors, une autre stratégie.
Pour Donald Trump, c'est peut-être mieux de tenter de passer à autre chose, de leur faire oublier, de mettre l'accent sur d'autres enjeux qui, selon lui, sont plus positifs pour sa présidence.
Un discours très trumpien, donc, est davantage adressé à sa base qu'à l'ensemble des électeurs.
Il a tenté de nous dresser un portrait très positif de l'économie. Et je pense que c'est difficile de convaincre les gens que l'économie va bien. Alors, est-ce que ça va plaire à sa base politique? J'en suis pas mal persuadé, oui, mais sa base politique, elle est déjà acquise. Est-ce que ça va plaire aux indépendants, aux démocrates mous ou aux électeurs plus modérés? Je suis loin d'être certain de cela.
À 8 mois des midterms, pas sûr que ce discours record suffise à inverser les sondages.
Et ce discours de Donald Trump sur l'état de l'Union provoque des réactions, notamment à l'international. L'Iran a réagi à ce discours, ce mercredi, discours annuel face au Congrès américain, en rejetant, je cite, les gros mensonges du président américain, Abla Jounaï. Dit bonjour.
Bonjour.
Alors, Donald Trump a accusé notamment la République islamique de développer des missiles capables de frapper le sol américain, et c'est faux.
Oui, pour le porte-parole, pardon. En tout cas, c'est difficile. L'Iran est-il en train de développer des missiles intercontinentaux d'une portée de 10 000 km? C'est en fait difficile de l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre, Donald Trump s'adressait surtout à sa propre population hier. Kevin Gafaiti est enseignant à Sciences Po au Paris et président de l'Institut des Relations internationales et de géopolitique.
À partir du moment où vous faites un State of the Union speech, c'est normalement un discours de politique interne. C'est absolument pas une déclaration qui vise l'international. Et donc, vous le voyez absolument, on a des déclarations du président américain qui visent à effrayer les États-Unis pour, en réalité, les coordonner dans les politiques qu'il veut mener.
Comme ça. Alors, convaincre les élus du bien fondé de cet engagement au Moyen-Orient, c'est ce qu'a tenté de faire Marco Rubio en amont du discours. Le secrétaire d'État a organisé un briefing classifié avec les 4 élus démocrates et 4 élus républicains les plus importants des comités du renseignement de la Chambre et du Sénat. Une réunion du même type avait précédé l'intervention au Venezuela, par exemple. C'est sérieux, l'administration doit présenter ses arguments au peuple, a averti à l'issue de la réunion le chef de la minorité démocrate, Chuck Schumer.
Merci Abla Junaïdi. Direction le Proche-Orient avec la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie occupée. Malgré la pression internationale, 20 pays ont condamné hier le contrôle illégal d'Israël sur la Cisjordanie. Illustration de l'accélération de cette colonisation illégale, Omesh. Cette colonie se situe dans le nord des territoires palestiniens occupés et avait été évacuée en 2005, en même temps que Gaza. Illégale au regard du droit international et du droit israélien donc, mais en 2023, le gouvernement israélien est revenu sur cette décision de désengagement. Aujourd'hui, la colonie d'Omesh est construite sur des terres palestiniennes et constitue une annexion de facto. Le lieu est sécurisé par l'armée israélienne qui est là pour protéger les colons. Cela contrevient au droit international, mais les colons s'estiment chez eux. Reportage Frédéric Misselin.
Sortie d'école dans la colonie de Romesh, la maternelle accueille une vingtaine d'enfants. Ici, l'institutrice porte une arme sous sa large robe et la maman de Yaakov élève son fils de 5 ans dans l'idée qu'il est ici chez lui.
Ça fait 20 ans qu'on attendait qu'on nous rende Romesh, qu'on nous autorise à revenir dans cet endroit qu'on nous avait volé. Et demain, comme ici à Romesh, nous irons au Liban, en Syrie et à Gaza, dans nos colonies du Gush Katif.
Un discours extrémiste décomplexé, cet avant-poste illégal vit sous protection permanente de l'armée israélienne, présente à l'entrée. Il est construit sur une colline, en contrebas, le village de Bourak, où habitent des Palestiniens qui ont perdu leur terre. Ruth est installée à Romesh avec une quinzaine d'autres familles. Elle habite dans un préfabriqué avec ses 2 enfants, mais espère que la colonie va se développer.
Pour l'instant, nos maisons sont des caravanes, mais avec l'aide de Dieu, nous aurons petit à petit des maisons en pierre ici. Cette terre est à nous, c'est le seul moyen de remporter la victoire, sinon nos ennemis profiteront de nos faiblesses.
Une annexion de fait qui atteint des chiffres records. Le nombre de colonies approuvées par les autorités israéliennes a explosé l'année dernière. 54 selon l'ONG La Paix Maintenant. Frédéric Misselin, de retour de Romesh, RFI.
Direction le Sri Lanka avec un rebondissement dans l'enquête sur les attentats de Pâques de 2019. Un tournant majeur dans cette enquête sur ces attentats, des attentats qui avaient fait 279 morts et plus de 500 blessés dans des hôtels et des églises du pays. Le chef des renseignements de l'époque, Suresh Saleh, a été arrêté ce mercredi à Colombo. Carlotta Morteo, bonjour.
Bonjour.
Alors, il est accusé d'avoir fomenté ces attaques suicides à des fins électoralistes.
Oui, alors il faut se rappeler que c'est dans la foulée de ces attentats que l'ultranationaliste bouddhiste Gotabaya Rajapaksa lance sa campagne pour les législatives dans un pays traumatisé donc par cette série d'attaques suicides coordonnées contre des églises chrétiennes et des hôtels de luxe. Il promet d'éradiquer l'extrémisme islamiste, stratégie payante. Gotabaya Rajapaksa est élu président du Sri Lanka un an plus tard et il maintient et promeut même à la tête du renseignement Suresh Saleh, pourtant rapidement accusé d'avoir ignoré des alertes. Le clergé catholique l'accuse même d'étouffer l'enquête. Pendant des années, ces accusations vont être rejetées par les autorités. Au total, 25 suspects sont condamnés, essentiellement des exécutants, des petites mains. Mais les commanditaires présumés, eux, restent inconnus jusqu'à ce qu'en 2023, rebondissement, 3 anciens membres d'un groupe paramilitaire témoignent à visage découvert dans la presse et affirment que le patron du renseignement Suresh Saleh lui-même aurait rencontré des extrémistes islamistes afin d'orchestrer les massacres pour créer un climat politique propice au clan Rajapaksa. Il a fallu attendre 2024 et l'arrivée au pouvoir de l'opposition pour qu'une nouvelle enquête soit ouverte et que Suresh Saleh soit démis de ses fonctions, puis arrêté ce mercredi pour complot et complicité 7 ans après les faits.
Merci Carlotta Morteo.
Un scandale au Japon qui touche la nouvelle première ministre.
Sanae Takaishi est au centre d'une polémique pour des cadeaux offerts à des élus de son parti à la suite de sa victoire lors des élections législatives début février. Plus de 300 encartés du Parti libéral-démocrate, le PLD, se sont vus proposer de choisir un article dans un catalogue pour les remercier d'avoir gagné les législatives. Elle affirme qu'il n'y a pas eu d'usage d'argent public.
On va parler à présent des polluants éternels. Les riverains d'une usine 3M belge réclament justice aux géants américains.
C'est du poison qu'on a reçu dans notre jardin, dans notre sang, dans notre corps. Les mots de l'une des plaignantes au procès de ce scandale environnemental qui implique le conglomérat industriel américain 3M en Belgique. Le procès se tient en ce moment, depuis hier et jusqu'à demain. Plus d'un millier de riverains de l'usine chimique l'ont attaqué pour les avoir exposés à des PFAS ou polluants éternels. Des produits chimiques très utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes ou de résistance à la chaleur, mais dont on craint de graves effets sur la santé. Lucille Gimbert.
Un couple de retraités atteint d'un cancer de la prostate et de troubles thyroïdiens, une mère et ses enfants au sang fortement contaminé au PFAS. Dans la salle d'audience d'Anvers, un échantillon du nombre grandissant d'Européens affectés directement par les polluants éternels, dans le sol de leur jardin, dans l'eau et dans leur corps. Gert Lessens, avocat des habitants qui ont attaqué l'usine 3M en Belgique.
Le gouvernement flamand a fait un test entre les voisins de la fabrique 3M en Belgique à une distance de 5 km. La moitié des gens testés ont un taux trop élevé de PFAS dans leur sang. On parle là déjà de 45 000 personnes.
Avec cette procédure collective, les riverains espèrent que leur droit à un environnement sain inscrit dans la Constitution belge et leur droit à une bonne santé seront reconnus. Ils demandent aussi une indemnisation de 25 euros par jour depuis la révélation en 2021 de la pollution autour de l'usine. 20 000 euros par personne. Et ce n'est qu'un début, assure l'avocat, car tous les impacts des PFAS sur leur santé ne sont pas encore mesurables.
C'est comparable avec l'amiante. L'amiante a eu une période d'incubation de dizaines d'années. Hein.
Le groupe 3M rappelle quant à lui qu'il a signé un accord amiable avec le gouvernement régional pour financer une vaste opération de dépollution des sols à hauteur de 570 millions d'euros.
Et dans le même temps, en France, 18 villages du nord du pays ne peuvent plus boire l'eau du robinet contaminée au PFAS. Une plainte a été déposée dans les Vosges et une enquête judiciaire est ouverte dans la Meuse.
L'actualité politique en France et l'Assemblée qui se prononce de nouveau sur la loi créant une aide active à mourir.
Les députés devraient adopter avec un jour de retard en deuxième lecture la création d'un droit à une aide active à mourir pour des patients remplissant 5 critères précis. En apparence, le chemin parlementaire de ce texte que le gouvernement compte entériner avant l'été progresse, mais en réalité les nouveaux débats ont tendu l'ambiance. Raphaël Delvolvé, l'avenir de la proposition de loi n'est plus écrit à l'avance.
Ça ne sont que 24 heures de retard, mais elles disent en réalité beaucoup. Avant le vote solennel, les députés vont se prononcer à nouveau sur des points précis à la demande du gouvernement soucieux de l'équilibre du texte. Cela visera notamment à retirer de la copie le choix laissé aux patients de s'administrer la substance létale ou de le demander à un soignant, quand le texte initial permettait le recours à un tiers seulement en cas d'empêchement physique. Ce genre d'évolution a braqué, notamment sur les bancs de la droite et de l'extrême droite, où certains députés disent désormais ne plus vouloir voter le texte. Si la majorité semble trop large pour être renversée, le nombre de votes pour sera tout de même à comparer avec la première lecture, lors de laquelle 305 députés avaient donné leur feu vert. Quoi qu'il arrive, le parcours législatif s'annonce encore long. En raison de l'opposition du Sénat au texte, l'Assemblée pourrait avoir à se prononcer deux nouvelles fois. Dans un calendrier déjà serré, beaucoup d'élus jugent désormais une promulgation à l'été, voire en fin d'année hypothétique, à moins que le président Macron convoque un référendum comme il l'avait envisagé un temps, si, je cite, « l'examen du texte s'enlisait ».
Et dans quelques minutes, nous reviendrons avec notre invité sur ce qui existe ailleurs dans le monde en termes d'aide active à mourir, suicide assisté ou euthanasie.
Et j'ajoute, Anne, que c'est cet après-midi que les députés vont se prononcer aussi sur un texte visant à renforcer les soins palliatifs. Texte là très consensuel, auquel personne ne devrait s'opposer.
Le musée du Louvre change de tête avec un nouveau président.
Au lendemain de la démission de Laurence Descartes, Christophe Leribaud, président du château de Versailles, est nommé à la tête du musée le plus visité au monde, dans la tour tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre. Alexis Fritsch, secrétaire général de la CFDT Culture, se réjouit de cette nomination.
C'est un très bon choix. Nous, on attend trois grandes choses. La première, c'est qu'ils refassent le lien avec les personnels. Le lien a été très abîmé, la confiance rompue. Donc, on attend qu'ils puissent rencontrer très rapidement les personnels, que Christophe Ribault puisse venir aussi exposer quelles sont les orientations qu'il va prendre très rapidement. Alors, évidemment, nous allons l'attendre en matière de sûreté et de sécurité. Hein. C'est une grande priorité. Et troisièmement, nous attendons de Christophe Ribault qu'il puisse donner les grandes orientations qu'il va donner à l'établissement. Comment il va faire pour aller chercher des moyens supplémentaires, alors, en matière de personnel, mais également en matière de fonctionnement, parce que vous savez, aujourd'hui, 70% du budget de fonctionnement de l'établissement, c'est le musée qui doit le trouver. Ce qui fait que ça fragilise beaucoup le système dès qu'il y a des grands travaux à faire. Et un point très important, qu'il retrisse aussi un lien avec les services du ministère de la Culture qui ont été très abîmés pendant cette crise.
Alexis Fritsch, secrétaire général CFDT Culture, interrogé par Laurence Théo, 13h15 à Paris. La suite d'RFI Midi avec vous, Anne Cantner.
C'était le journal d'Olivier Sherman. La suite, ce sont les sports, comme chaque jour à 7h06. Bonjour Pauline Guillou.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Pour un journal 100% foot, nouvelle soirée de Ligue des Champions au programme aujourd'hui. Quatre équipes se sont qualifiées hier pour les huitièmes.
Oui, avec l'énorme surprise de la soirée, l'élimination.
Session HDR.
We'll be right back.
Filling the buckets overflowing with self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair.
Got a vendetta, but never get it together. Your best friend is sane. I'm looking at life in a different light. I'm a beast in disguise. I'm waking up this morning, I got crust in my eyes. Funny how the money make a nigga go blind.
Le mix de toutes les cultures, c'est sur le 99.
Le mix.
Repartons. Je vous emmène tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM. Repartons, c'est la rencontre avec des passionnés et des professionnels. C'est des discussions et des réponses sur des sujets qui nous intéressent et nous concernent. Repartons, c'est tous les vendredis dès 13h20 et le samedi suivant dès 8h sur Radio HDR 99.1 FM.
Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem.